VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Il est 17h en temps universel, 19h à Bujumbura. Le bureau de la nouvelle Assemblée nationale burundaise a été voté par 112 des 121 de ses membres. Une surprise, l'ancien chef rebelle Agathon Rwasa, qui avait appelé au boycott des élections de juin et juillet dernier, devient premier vice-président. Pascal Nyabende du CNDD-FDD au pouvoir a été élu président. Le dernier élu est l'ancien ministre de l'Intérieur, Edouard Ndouimana, qui devient lui deuxième vice-président. Aucune femme n'a été élue, contrairement à la pratique depuis 10 ans. Et certains leaders de l'opposition et de la société civile burundaise se réunissent depuis hier en fin de soirée dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour des entretiens avec l'Union africaine sur la crise politique dans leur pays, où le président Pierre Nkurunziza a remporté un troisième mandat controversé et jugé non crédible par l'Union, par les Nations Unies et les pays de la sous-région. Eric Manirakiza.
Les principaux partis d'opposition ont boycotté les dernières élections législatives et présidentielles pour des raisons d'un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza en violation de la Constitution et de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Dans sa facilitation, l'Ougandais Yoweri Museveni, chargé par la communauté est-africaine à négocier une solution à la crise, n'a pas réussi. Mozi Innocent, directeur général de la radio Renaissance indépendante, détruite le lendemain de l'échec d'un coup d'État militaire, dit que les dirigeants de l'opposition sont à Addis Abeba pour discuter probablement l'idée d'un gouvernement d'union nationale et éventuellement la tenue d'élections libres et équitables. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Une petite partie de participants n'ont pas pu obtenir des visas, dont deux figures du MST, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie, Alexis Nduhije et François Nyamoya, respectivement président et secrétaire général du parti. Malgré cet incident, les travaux ont bel et bien eu lieu, selon un des organisateurs joint par VOA Afrique. Les résultats pourront être rendus publics dans 2 jours, selon toujours la même source.
Le Cameroun et le Nigeria promettent de collaborer pour lutter contre Boko Haram. Le point avec Camille Gros-Didier.
Le président camerounais Paul Biya et son homologue nigérian Muhammadu Buhari, en visite au Cameroun, se sont publiquement engagés à collaborer pour juguler la menace de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Le Cameroun et le Nigeria sont tous deux membres de la commission du bassin du lac Tchad, composée en outre du Tchad, Niger et de la Libye, qui cherche à opérationnaliser une force de lutte contre Boko Haram. Depuis la mi-juillet, près d'une 60aine de personnes ont été tuées dans une demi-douzaine d'attentats-suicides.
La capitale guinéenne, Conakry, est frappée depuis au moins 5 jours par des pluies torrentielles qui paralysent l'activité économique et ont provoqué la mort d'au moins 4 personnes alors que la saison des pluies n'est pas terminée. On signale d'importants dégâts matériels et humains, certaines rues devant ayant été débordées par des torrents, ce qui provoque d'importants embouteillages et des accidents de la circulation. Et selon la radio nationale, plusieurs zones se sont retrouvées complètement submergées. Reporters sans frontières consterné par l'arrestation en Côte d'Ivoire de Joseph Nyangwa Titi. Il est directeur en chef et le rédacteur en chef et directeur de publication du quotidien Aujourd'hui, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les délits de presse sont dépénalisés en Côte d'Ivoire, rappelle l'ONG de défense de la presse. Le journaliste a été placé en détention préventive pour offense au chef de l'État et fausse nouvelle le 29 juillet, suite à la publication le 21 juillet d'un rapport attribué à la DGSE française dont l'authenticité n'a pas été prouvée et qui accusait le président Alassane Ouattara de transfert illicite de fonds, de blanchiment et de détournement de l'aide au développement. Un journaliste de la radio angolaise d'opposition Radio Despertar a été, lui, brièvement arrêté en marge d'une manifestation organisée pour la libération de 15 opposants et réprimée mercredi par les forces de l'ordre. Gonsalves Vieira, dont la radio soutient régulièrement les appels à manifester des jeunes contestataires au régime, a été interpellé avec 4 autres personnes avant la manifestation. Au Congo-Brazzaville, les dirigeants d'opposition comptent transmettre aujourd'hui au président Denis Sassou Nguesso les conclusions de leur dialogue alternatif qui a pris fin mardi, à savoir un appel au chef de l'État lui demandant de ne pas convoquer un référendum pour changer la constitution. Les détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Après 3 jours de concertation, les opposants gardent de ces travaux une seule ligne directrice, le non-changement de la constitution. Gilda Mounsara, participante et porte-parole de la plateforme qui lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel.
Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour le respect des principes de la démocratie et donc normalement la limitation du nombre de mandats. Et nous voulons dire au président de la République que la constitution qui régit notre pays, qui fait de lui président de la République, ne lui donne pas l'initiative de convoquer un référendum.
Nguela Ngusu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Voilà, notez qu'au précédent dialogue des CBT organisé par le gouvernement, les participants, essentiellement issus de la mouvance présidentielle, s'étaient eux prononcés en faveur d'une révision constitutionnelle. Le gouvernement sénégalais s'est engagé auprès de la Banque mondiale à utiliser durant l'année budgétaire 2016 l'outil Boost. Cette plateforme en ligne permettra aux Sénégalais d'accéder aux données budgétaires de l'État, renforçant ainsi la transparence dans la gestion publique. L'annonce a été faite mercredi à Dakar par Cheikh Tidiane Diop, secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Il s'exprimait lors d'une conférence internationale sur l'initiative Boost de la Banque mondiale. Le Sénégal a adopté en décembre 2012 une loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les États-Unis annoncent la livraison de 8 avions de combat F-16 à l'Égypte. Ce sont les tout premiers depuis que Washington a levé fin mars le gel partiel de son assistance militaire au Caire. L'annonce intervient alors que le chef de la diplomatie américaine John Kerry est attendu ce dimanche au Caire pour co-présider avec son homologue égyptien Sameh Shoukry un dialogue stratégique entre les deux alliés aux relations tumultueuses. Les relations entre Washington et l'Égypte, un allié clé de longue date dans la région, s'étaient légèrement refroidies depuis la destitution par l'armée de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013 et la sanglante répression lancée contre ses partisans. La Birmanie a ordonné la libération de milliers de prisonniers, dont des dizaines de bûcherons chinois, lors d'une amnistie de masse, signe de bonne volonté des autorités après des accrochages avec ses voisins. Claire Morin-Gibault.
Sur ordre présidentiel, la Birmanie va relâcher 6 966 détenus, dont 210 étrangers, dans tout le pays, pour bonne conduite. Selon le communiqué du ministère de l'Information, cette décision est de la part des autorités un signe de bonne volonté et vise à maintenir des relations amicales entre les pays. Parmi les prisonniers libérés figurent notamment 155 Chinois qui avaient été condamnés la semaine dernière à de très longues peines pour abattage illégal d'arbres et trafic de bois dans le nord du pays. Condamnation qui avait dégradé des relations sino-birmanes déjà très tendues. En dehors de ces bûcherons chinois, les autorités n'ont en revanche pas clairement précisé si des prisonniers politiques figurent parmi les personnes qui vont être libérées. Cette décision est la dernière en date d'une série d'amnisties depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement civil qui a relâché des centaines de dissidents.
Peut-être une conséquence de l'annonce cette semaine de la mort depuis 2 ans du chef des talibans, le Mollah Omar. Selon les autorités pakistanaises, la prochaine ronde de négociations de paix afghane a été reportée à la demande de la direction des talibans afghans. Le Bureau des affaires étrangères du Pakistan a publié un communiqué ce jeudi annonçant ce report. Selon l'AFP, les talibans ont confirmé dans un communiqué la mort du Mollah Omar. Et on apprend que l'adjoint de ces derniers, chef des affaires politiques et militaires des talibans, le Mollah Akhtar Mansour, a été désigné comme le nouveau chef de file des talibans. Les enquêteurs sont toujours à pied d'œuvre pour déterminer si le débris d'avion retrouvé sur l'île de la Réunion dans l'océan Indien vient de l'appareil de Malaysia Airlines qui a disparu en mars dernier. L'objet qui ressemble à une partie d'une aile a été découvert hier mercredi sur une plage de l'île de la Réunion située entre Madagascar et l'île Maurice. Plusieurs centaines de migrants se sont de nouveau introduits sur le site d'Eurotunnel. L'Eurotunnel à Calais dans la nuit de mercredi à jeudi pour tenter de rejoindre l'Angleterre. La police a procédé à environ 300 interceptions et comptabilisé entre 800 et 1000 migrants aux alentours du site. Mercredi, le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve avait annoncé le déploiement de 120 policiers supplémentaires sur le site afin de sécuriser les abords du tunnel sous la Manche. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Les prochaines informations, c'est dans 25 minutes avec Chérubin Dorsil et Camille Gros-Didier. Et l'info continue sur voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.